Bonsoir, bonsoir Cécile Becker, la plus grande intervieweuse de Fluxfor et de Novo. Et bonsoir Nicolas Sornaga. Alors on sort, Cécile et moi, de votre nouveau film, dernier film. Moi j'avais adoré le premier, le dernier des Immobiles. J'avais un peu peur de voir le nouveau. Je me disais, est-ce qu'il va être à la hauteur? Et en fait, je suis sorti de cette séance avec la grosse banane. J'ai vraiment bien rigolé à plusieurs reprises. Et surtout, j'ai retrouvé toute la poésie qu'il y avait dans le premier. Et ça m'a fait bien plaisir. Donc peut-être pour commencer, là, vous nous avez raconté un petit peu... tout à l'heure, votre rencontre avec Morimoto, le personnage principal du film. Est-ce que vous pouvez aussi, à nous maintenant à la radio, nous résumer cette rencontre et, qui est un petit peu caractéristique de votre cinéma, dans lequel vous avez l'habitude de faire intervenir une sorte de galerie de personnages. Et je pense qu'une partie de la poésie qui y a dans vos films vient justement de ces personnages qu'on ne voit pas assez dans le cinéma français. Finalement, parce qu'il y a Monsieur Morimoto, mais il y a aussi d'autres personnes dont on va parler. Donc, comment est né ce film en deux mots? Parce qu'on va pas refaire toute l'histoire, et après on va pouvoir dialoguer avec Cécile, qui va poser des questions plus intelligentes que moi.
Alors, oui, bonjour. J'ai rencontré galerie de personnages. Alors, bon, j'espère que c'est pas une galerie marchande, hein, déjà.
Non, pas du tout.
Ça, c'est important parce que j'aime pas trop les galeries marchandes. Mais ouais, parce qu'il s'est fait au gré des rencontres, un peu comme le film lui-même. Il se déroule de manière un peu dans un rapport de hasard où on peut jamais vraiment prévoir à l'avance. Enfin, on peut jamais prévoir, rien prévoir. Et donc Morimoto, je l'ai rencontré juste un jour pendant l'été où j'étais avec un copain à la terrasse d'un café, puis je suis allé dans une rue à côté, dans le quartier de Belleville à Paris, qui est mon quartier, mon fief. Et je l'ai vu qui était assis là sur un plot. Donc c'est un petit bonhomme avec un côté un peu chaplinien, qui avait un côté très cartoon avec une espèce de moustache de moustache de chat, qui se prend pour un chat, qui est un vieux japonais habillé un peu comme une sorte de charlot. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? D'où il sort, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, je l'ai vu comme une espèce de mystère un peu qui m'a cogné, qui m'a frappé dans... qui a cogné un peu à la vitre. Et je me suis dit, bon, si je fais pas un truc avec lui, je suis débile. Donc je suis allé, je l'ai branché directement. Je lui ai dit, comme on branche une jolie fille, je lui ai dit, est-ce que vous voulez venir à un rendez-vous? Je lui ai écrit sur un papier parce qu'il parlait pas français. En fait, j'ai appris que ça faisait 10 ans qu'il était en France, mais qu'il parlait pas un mot de français. Et je lui ai dit, tu veux venir à un rendez-vous? Je lui ai écrit sur son carnet, il m'a sorti son petit carnet sur lequel, comme il parle pas français, il écrit des expressions toutes faites. Et bon, il a compris qu'on avait rendez-vous et il m'a donné rendez-vous dans un café. Et là je pense qu'il a pas compris tout de suite que je voulais faire un film avec lui. Il a cru que je voulais faire un reportage sur sa peinture. Ce qui se trouve que le Morimoto en question, donc, est au début un peintre. C'est un monsieur qui a fui le Japon le jour de sa retraite. En fait, il est parti, il a quitté sa femme, ses enfants, après avoir obéi un peu à la société en faisant son devoir de bon citoyen. Il a travaillé pendant 40 ans. Donc, en gamin, il a vu Nagasaki quand même. Donc voilà, et lui, il avait le rêve d'être peintre, mais il était postier. Et puis du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Morimoto, quoi. Donc il est venu pour vivre la vie de bohème à Paris, après avoir être passé par Tahiti. Sur les traces de Gauguin, il est allé à New York, il est allé dans plein de pays comme ça, Costa Rica, voilà, où il mangeait des bananes.
Alors moi, il y a un truc un peu paradoxal, c'est que vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez écrit le scénario en 40 minutes. Alors, c'est peut-être un gag, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Il y a une sorte de légèreté dans votre façon de travailler. Moi, ça m'intéresse de voir comment vous arrivez à ça. Et en même temps, le film, il met très longtemps à sortir. Alors j'ai du mal à comprendre, moi, en fait... qu'est-ce qui coince en fait, parce qu'on se dit vu que votre façon de tourner, ça devrait aller très vite, ça devrait être très léger, et le film devrait se retrouver très vite sur les écrans en fait.
Bah, je crois que justement c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que cette légèreté qu'on peut aussi confondre avec une certaine forme de liberté aussi. Aujourd'hui, elle a plus vraiment sa place, en tout cas en ce moment, dans le système de production cinématographique en France. Et qu'il faut quand même rentrer justement dans une sorte d'économie où tout est prévu à l'avance. Et on ne peut avoir des subventions et de l'argent pour produire des films que si on a rendu des comptes avant. Alors bon, ça a toujours été le cas, hein, pour faire des films, souvent il fallait montrer des scénarios, mais c'est vrai qu'il y avait... Là, j'avais envie de tourner ce film. Quand j'ai rencontré le personnage, j'ai eu très vite l'idée du rapport du personnage avec les marionnettes, la manière dont le personnage, justement, tous ces personnages, c'est des personnages qui veulent pas être des marionnettes, qui veulent pas être le fruit de être instrumentalisé par les autres, qui veulent pas être le fruit de la frustration du désir des autres. Et pour moi, Morimoto, c'est un peu une allégorie de ça. Et ben moi là j'en avais marre de pas tourner, j'avais fait le dernier des immobiles il y a déjà un petit moment et puis entre temps j'avais signé avec une grosse boîte de société de production qui voulait absolument contrôler chaque virgule de mon scénario et chaque dialogue et à quelle seconde du film, à quelle page du scénario le personnage allait aux toilettes ou allait boire un verre de rouge, et pour moi c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai besoin d'inventer à toutes les étapes en fait. Enfin, je ne conçois pas le fait qu'on ne puisse pas inventer à toutes les étapes de la création d'un film. Et malheureusement, aujourd'hui, bon, on a trop tendance à confondre cinéma et scénario. Et or, on sait très bien qu'on écrit depuis toujours, autant au tournage, dans la mise en scène, que au montage, que au scénario. Et c'est un peu comme si aujourd'hui, la seule... Le seul pouvoir, en fait, il est dans les mains d'une sorte de... quand même, ce qui est un peu au départ un ramasse-poussière, parce qu'avec un scénario, on peut faire mille films. Donc évidemment, un beau scénario, c'est mieux pour faire un beau film, mais moi, j'avais ce truc où j'inventais les dialogues au fur et à mesure, où j'avais choisi ces personnages qui étaient à la fois des amis, des gens que j'avais rencontrés, qui m'avaient surpris. Et j'avais envie de rester dans ce rapport de surprise permanent, où, bon, on n'avait que 15 pages pour tourner le film, ce qui est totalement interdit aujourd'hui, mais... Bon, je l'ai payé cher, c'est ça, voilà, je l'ai payé cher dans le sens où de faire les films dans cette économie-là, ça induit que bah, on rentre pas dans... le film peut sortir, on peut avoir un visa d'exploitation, mais on rentre pas dans les cases de la réglementation, du soi-disant, la soi-disant exception culturelle, justement, elle laisse pas peu de place pour ça. En tout cas, pour le moment, il n'y en a pas vraiment encore, alors... parce qu'on n'a pas le droit aux aides à la distribution. Donc voilà, après, il faut trouver des distributeurs un peu courageux, mais ou alors réussir à changer un peu les choses au CNC pour que des films autoproduits, faits de manière un peu sauvage comme ça, mais moi, j'aime pas appeler ça film sauvage. Je trouve que c'est un côté un peu dépréciatif. Je préfère les appeler films clandestins ou forains, enfin, parce qu'il y a un côté un peu forain. On déboulait sur une place, dans un quartier comme ça. Je trouvais mon décor, par exemple, la scène avec les betteraves où on les voit à la fin. On va chercher un décor, on a trouvé le décor, on a tourné directement la scène dedans. Ou quand ils volent la banane à l'épicerie, bon, bah, tout d'un coup, je lui ai dit, tiens, et si on lui faisait voler une banane? Et puis là, on s'est mis sur la petite place qui est en bas de chez moi. Près de Belleville, et puis y a tous les gens qui sont mis autour de nous, un peu comme une troupe de Commedia dell'arte. Morimoto a volé la banane, et il y avait tous les gens qui se marraient dans la rue, enfin, il y avait cette espèce de légèreté là, et effectivement, c'est vrai que je l'ai payé assez cher.
Parce que c'est vrai que moi, ce que j'adore dans ces films, c'est vraiment cette poésie, en fait. Et je sais que là, on en parlait tout à l'heure, vous dormez chez Mathieu Messager ce soir. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un rapport, justement, entre la poésie de Mathieu et cette façon de faire du cinéma? Est-ce que, quelque part, ça a déteint ou pas du tout? Ou est-ce que c'est simplement vos deux univers qui se sont rencontrés parce que vous étiez un peu sur la même longueur d'onde?
Ah bah ça, qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est sûr. Avec Mathieu, avec qui j'avais fait mon premier long métrage. Après, enfin, je pense que ce qu'il y a de commun, c'est juste ça, c'est de savoir cueillir les choses qui s'offrent à nous et de pas les préméditer. Et voilà, c'est le principe même pour moi de la poésie. C'est ce qui se passe quand on rêve, c'est ce qui se passe quand... C'est ce qui se passe quand on se laisse aller à vivre sans regarder, sans se regarder. C'est ce qui me plaît, quoi. C'est le côté fenêtre du cinéma, le côté cette espèce de plaisir un peu analogique. voilà, poétique. C'est sûr que c'est la surprise qui fait cette qui va jusqu'à la stupéfaction même parfois.
Il y a un côté quand même marabout, bout de ficelle aussi, où on passe un peu d'un plan à l'autre, comme on passe d'une phrase ou d'un mot à l'autre, non ? Je sais pas.
Bah ouais, comme on parle, comme on vit, c'est-à-dire qu'on sait pas de... Tous les jours, on ne sait pas forcément ce qui va se passer dans la journée, on ne sait pas forcément ce qui va se passer dans le... Moi, ce que j'aime pas trop au cinéma, c'est quand tout est prévisible, et c'est vrai que j'y pense même pas, mais c'est la manière dont les choses se sont faites. D'ailleurs, le film, on n'y a pas pensé, on était juste amené à des situations. J'avais une structure de, voilà, où j'avais à la fois envie de raconter l'histoire de ce vieux peintre exilé, de ce type qui aimerait vivre la vie d'un peintre parnassien dans une époque qui n'est plus du tout la sienne ou qui correspond à rien dans son idéal. J'avais envie de raconter ça, qui perd son tableau, qui se retrouve à la rue avec son dernier tableau, qui perd son tableau, qui cherche son tableau au moment où une fille... Il rencontre une fille, voilà, il cherche la fille, il en oublie son tableau, et puis elle lui vole son tableau. Enfin voilà, cette espèce de rapport à la sublimation, ce tableau-là qu'on voit dans le film qui s'appelle Papillon à danser, comme une espèce d'allégorie de l'amour, un peu de son rosebud, comme c'est son rosebud, son papillon à danser, voilà, c'est son rapport à la sublimation. J'avais envie de raconter ça, mais j'avais aussi envie de raconter tous ces personnages qui se croisent. Sans, quand même avec un sens dramatique quand même, j'avais quand même envie de raconter une histoire, enfin au-delà de l'histoire du mec qui a perdu son tableau et tout, mais de raconter ce rapport entre ces gens qui se croisent et qui se voient pas, ou alors c'est pas parce qu'ils parlent pas la même langue qu'ils arrivent à avoir des moments où ils arrivent à se comprendre, enfin voilà, parce que c'est vrai que tous les personnages du film parlent une sorte un peu un charabia, ils parlent tous des langues un peu personnelles, ça rejoint peut-être la poésie, ou peut-être des langues impersonnelles, peut-être. C'est-à-dire qu'ils parlent il y a une sorte d'objectivité de leur langage, qui sont tous différents les uns des autres. Mais en même temps, ils arrivent à se retrouver, parfois, parfois pas, mais ça m'intéresse. Pour ça, c'était bien de faire un film avec un mec qui parle pas français. Puis ça renvoie un peu aussi au côté burlesque de Morimoto, son côté un peu... Son impassibilité, son mutisme de personnage de film muet, un peu comme ça, et en même temps voilà, qui parle que par petites expressions de un peu cartoon, un peu des gimmicks, quoi, des voilà, donc ça laisse un espace pour la communication non verbale. Mais c'est vrai que tous les personnages sont un peu perchés, hein. Il y a une jeune fille tout à l'heure qui me faisait, étudiante en cinéma, remarquer à juste titre qu'il n'y avait pas de personnage soi-disant normal, quoi, dans le film. Elle a raison, il n'y a pas de personnage comment dire, qui soit une sorte de, qui soit pas dans une, noyé dans sa folie, quoi. C'est vrai que...
Il y a André Labarthe quand même.
Il y a André Labarthe, mais c'est peut-être justement, c'est le marionnettiste, donc c'est lui qui tire les fils. Donc on se dit que c'est ceux qui tirent les fils. C'était peut-être une allégorie aussi, hein, sur la mise en scène, enfin croire qu'on veut contrôler. Croire qu'on veut tout contrôler, c'est peut-être ça la pire chose. C'est peut-être ça ce que je cherche aussi, moi, en faisant des films ou quand j'écrivais des poèmes, ou ce que j'aime dans les poèmes de Mathieu, c'est justement, c'est un moment perdre le contrôle et puis en même temps pouvoir garder le fil, mais en tout cas être le premier à être surpris par mes propres idées et puis par celles des autres aussi. Donc c'est une manière de participer comme une sorte de... Quand je disais le côté forain, c'est vraiment comme ça que le film s'est fait. C'est pour ça que c'est pas juste qu'ils sortent pas et que je comprends pas pourquoi on trouve pas enfin on trouve pas, c'est pas qu'on est cherché comme des malades, mais disons des distributeurs qui est un peu cette espèce de courage de montrer. Moi, je pense pas que ce soit un film pour trois personnes, Morimoto. Je pense pas que ce soit un film, comment on dit, élitiste ou quoi. Et j'ai vu des gamins, des vieux, enfin des gens de tous les âges qui arrivait à s'y retrouver, donc je... Voilà. Après, c'est dur de commencer un film comme ça et de vouloir rentrer dans le système. En même temps, je trouve ça dommage que les gens n'y aient pas accès, d'autant qu'il a rien... Il a coûté très peu cher. Donc tout de suite, on pourrait commencer à donner un peu d'argent et dans une espèce d'économie un peu Robin des Bois, où on redistribue l'argent, parce que le film sera amorti très vite, mais... Enfin, là, j'ai dévié sur l'économique. Voilà.
Vous disiez juste avant que c'était pas un film élitiste. Moi, je suis d'accord, et au contraire, donc là, je l'ai vu. Et il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est presque comme un dessin animé. Enfin, il y a des choses, c'est très drôle, il y a des personnages très caricaturaux, enfin, qu'on pourrait facilement voir en personnage de dessin animé, en fait. Enfin, c'est, qu'est-ce que vous pensez de cette image que j'ai eue ?
Bah, caricaturaux, c'est parce que c'est des natures assez fortes. Après, moi, pour moi, ils ont quand même une humanité, une complexité, tous, dans leur folie. Et on peut peut-être facilement les... Caricatural, c'est au sens où on peut peut-être les imiter, où ils ont une manière de parler très, très forte, ou une manière de pas parler, je sais pas. Mais c'est sûr que... Enfin, pour moi, la caricature, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est pas dépréciatif. Hein. Je le prends plutôt comme un compliment, dans le sens où, voilà, moi j'adore Tex Avery, par exemple. Et Morimoto, il a ce côté-là, et en même temps, dans Tex Avery, c'est hyper noir, c'est Darwin, quoi. C'est la lutte pour la survie. Moi, je trouve qu'il y a ce côté-là, c'est-à-dire pas psychologique. Dans le film, en même temps, ça m'intéressait de montrer justement, de balancer ce côté pas psychologique de Morimoto ou du roi de France, Vicky, qui joue ce personnage qui se prend pour un roi feignant, un peu mérovingien, qui parle en vieux mérovingien, un peu chevalier, comme ça, samouraï. Ça m'intéressait de le mettre en contrepoint avec des personnages plus contemporains, comme Lila, la fille d'André Labarthe, qui joue le marionnettiste, et de montrer en quoi tous ces univers se croisaient. Et souvent, de la même manière que dans la vie, souvent on se croise, on se croise par des liens purement factuels. Enfin, comme ça, on se voit, je connais un tel, qui connaît un tel, tout ça. Et puis on passe très souvent à côté de l'essentiel, quoi, les uns des autres. Et ça, moi, je voulais montrer un peu ça, quoi, cette espèce d'espace qui y a entre les gens, qui se croisent et qui, en fait, ils se voient pas. Oui, il s'ignore, parce que de toute façon, on peut pas voir tout le monde, hein. On peut pas être le copain de tout le monde, comme dit. Enfin, mais voilà, j'avais envie de montrer ce rapport aux autres à travers des personnages qui parlent pas la langue, qui sont perdus dans leur autisme un peu, dans leur folie intérieure, dans leur langage personnel, et en même temps montrer en quoi, et justement, il y a un truc universel, malgré le fait peut-être ils s'écoutent pas, c'est des suites de monologues qui se croisent. Mais en même temps, ils sont tous un peu traversés par... Déjà, ils ont ces mêmes impossibilités de dialogue, quoi. Déjà, ça leur fait un point commun, puis c'est tout ce rapport où l'amour est souvent un peu idéalisé, où voilà, il manque un peu l'espace de l'instant présent, que ce soit le chevalier là qui est dans une projection où il projette sur... ça, comment on dit quand on est parrain là, sa filleule, il projette sur sa filleule un amour défunt, ou Morimoto qui va se mettre à chercher Eve, cette fille qu'il a rencontrée à la sortie du théâtre de marionnettes au moment où il a perdu son tableau, et qui va la chercher comme une sorte de petite fée, comme ça, comme un peu comme le papillon, comme le chat qui court à la poursuite de son papillon. Mais pour moi, c'est quand même des personnages complexes, parce que justement derrière cette caricature, il y a leur folie, et elle est quand même articulée autour de plein de contradictions. C'est des personnages qui, en fait, dans leur caricature, ils ont déjà toutes les contradictions du monde. Donc ils sont à la fois simples et d'une extraordinaire complexité, quoi. Mais après, je pense que voilà, il y a plusieurs manières de lire le film.
Alors, comme on est impatient de voir le prochain film, on se demande avec Cécile s'il y a déjà un prochain film sur les rails, parce que là, on parle de Monsieur Morimoto depuis quelques temps, mais est-ce qu'il y a d'autres projets là en vue ?
Alors, il y avait un scénario qui était déjà écrit, que j'ai pas réussi à produire. Du coup, là, j'ai plus trop envie de le faire. Qui était une histoire de trois vieux révolutionnaires yiddish qui avaient connu l'époque du pacte germano-soviétique avant la guerre, qui se retrouvaient à Cuba. Enfin, il y avait toute une histoire avec des flashbacks et tout. Hein. C'était peut-être un peu complexe à monter, mais voilà, j'ai un projet sur l'histoire d'un moine errant qui est inspiré d'une légende tantrique tibétaine du XVIe siècle. Qui s'appelle Le Fou Divin, qui est l'histoire d'un type qui croit illuminer tout le monde, et qui pense faire l'amour avec les femmes uniquement par pure générosité. Mais ça, je sais pas si c'est le prochain que je vais faire. Là, j'aimerais bien que Morimoto sorte, mais je vais commencer effectivement à y songer. Sinon, voilà, peut-être faire un film plus un peu plus frontal, plutôt que de montrer maintenant des personnages comme ça, un peu brinque-ballés. Peut-être les faire devenir un peu plus actifs, plus guerriers que résistants. Je sais pas, on va voir. Ou montrer plus. Bon, je sais pas si j'irai jusqu'au film de dénonciation, mais porter un regard peut-être encore plus critique. Qui soit pas subi tout en essayant de garder le merveilleux, mais du coup ça risque d'être encore plus noir, je sais pas. En tout cas, toujours par le biais de l'humour et du merveilleux, sinon ça présente peu d'intérêt pour moi. Voilà. Donc là je pars à Lisbonne un petit peu pour m'aérer le ciboulot.
Sur les traces de Montero.
Sur les traces de Montero et de Pessoa et de tous ceux qui sont passés par là, mais j'ai juste... Je me ressourcer, voilà, sur les rives du Tage.
Merci Nicolas Sornaga, merci Cécile Becker.
Merci.
Eh bien, nous, on va aller s'installer pour le premier plateau, la première émission, pardon, en direct du Festival de Belfort, Entrevue. Merci Philippe, merci Nicolas.